La tricochronique de Christian Weissenbach-Herr. C'est à se demander comment la barbe en est arrivée à devenir un synonyme d'ennui. Car quand on cherche des histoires de barbe, même musicales, on en trouve à ne plus savoir où donner du menton. Dans mon embarras, j'ai choisi d'ignorer les barbes célèbres, la vraie d'Agamemnon et la fausse de Paris, la bleue de Barbe Bleue et la noire de Tchernomor, la sévillane de Figaro ou la thomanienne du dictateur, pour vous raconter trois histoires sans doute moins connues, mais peut-être mieux ancrées dans l'histoire avec un grand H. La première concerne les femmes à barbe, qui feront une heureuse transition avec les hommes à tresses. Peut-être avez-vous déjà vu le portrait intrigant de Santa Liberata, cette peau d'âne que Dieu dota d'une barbe pour la soustraire à une union impie ou incestueuse, mais qui fut pour cela crucifiée par son père. Ou bien, plus troublant encore, le portrait d'Antonietta Gonzalvus, cette femme hirsute qui suscita à la fois la curiosité et la protection des cours d'Europe à la fin du XVIe siècle. C'est à cette fratrie qu'appartient le personnage de Baba la Turque dans The Rake's Progress de Stravinsky. Une femme à barbe que le malin Nick Shadow donne en mariage au libertin Tom Rackwell pour lui apprendre à s'affranchir du désir. Observe the host of mankind. How are they? Wretched. Why? Because they are not free. Why? Because the giddy multitude are driven by the unpredictable most of their pleasures. And the sober few are bound by the inflexible lot of their duty. Which slaveries, there is nothing to choose. Would you be happy? Then learn to act freely. Would you act freely? Then learn to ignore those ten tyrants of appetite and conscience. Therefore, I counsel you, master, take Baba the Turk to wife. Consider her picture once more, and as you do so, reflect upon my words. Ma seconde histoire de barbe musicale concerne les Lombards. Ces barbares, qui fondèrent un royaume en Italie au VIe siècle, s'appelaient à l'origine les Viniles, et ils avaient pour ennemis les Vandales. Le dieu Vaudan ayant promis la victoire au premier qu'il verrait à son réveil, son épouse Freya, qui soutenait les Viniles, suggéra à ses protégés de se présenter à l'aube au levant, accompagnés de leur femme, et à celle-ci de disposer leurs cheveux de façon à faire croire à une barbe. Ce sont ces longues barbes qui attirèrent le regard de Vaudan à son réveil et qui valurent donc aux Viniles la victoire promise, ainsi que leur nouveau nom de « Lombard ». Après le succès de Nabucco, Verdi composa « Les Lombards à la première croisade », un opéra mieux connu en France sous le titre de « Jérusalem ». Et Liszt composa peu après une paraphrase pour piano de la célèbre prière de Giselda au premier acte « Salve Maria ». Thank you. Ma troisième histoire est celle de la pogonophobie, comprenez aversion pour les barbes, de Pierre le Grand. En 1698, suite à une nouvelle révolte des Streltsy, des soldats d'infanterie qui s'étaient déjà rebellés 16 ans plus tôt, le tsar interrompit sa grande ambassade en Europe occidentale pour mater les rebelles et éliminer définitivement ce corps d'armée. Le 5 septembre, il rasa tous les boyards de sa main, à commencer par leur chef, Chéine. Nulle autre démarche ne pouvait mieux signifier leur mise à mort, car couper une barbe était un acte sacrilège dans les milieux orthodoxes traditionnalistes. C'est la première révolte des Streltsy qui inspira à Moussorgski sa Kovanchina, un titre qu'on peut traduire par « l'affaire Rovansky » du nom du chef des Streltsy en 1682, qui mourut assassiné chez lui au beau milieu d'une chanson. Signe de ralliement aux slavophiles ou soumission à la mode de la Belle Époque, la barbe revint au menton des tsars avec Alexandre III et Nicolas II, avant de disparaître définitivement avec le reste de la tête en 1917. Mais comme vous le savez, les poils repoussent et l'histoire bégaye. Après les Pierre le Grand et les Rovansky viendront, avec ou sans opéra, les Atatürk et les Talibans.